BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. C'est clair, la saison prochaine qui va être marquée par la campagne présidentielle va surtout être marquée par l'appel à un référendum pour la sortie de la France de l'Union Européenne, le Frexit. Finalement, ça va pas être le Frankxit, ça va être le Frexit. Hein. C'est ça la dénomination exacte et celle qui est derrière ce projet, c'est Marine Le Pen, mais pas que. Il y en a d'autres aussi qui s'intéressent à la question et d'ailleurs, comment faut-il se positionner par rapport à ça. Est-ce que refuser un référendum, finalement, c'est pas un déni de démocratie sous prétexte que, évidemment, un référendum serait quasi synonyme de sortie de la France de l'Union européenne aussi. Ben, c'est la question qu'on va se poser. Un référendum en France serait-il irresponsable? Bonjour Maria Arena.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée belge. Merci d'être avec nous. En Belgique, la question se pose pas pour l'instant. Déjà, les référendums, c'est pas constitutionnel.
Tout à fait.
Mais personne ne pense en Belgique à une sortie de l'Union européenne.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique de l'Union européenne et donc je pense que ce sont des questions qu'on doit se poser.
D'accord. Bon, bonjour Jean-Sébastien Lefebvre.
Bonjour.
De contexte, vous en pensez quoi? Un référendum en France, est-ce que ce serait irresponsable? C'est Alain Juppé, candidat à la primaire Les Républicains, qui a utilisé ce terme, ce serait irresponsable.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'un référendum en France, c'est pas du tout la même portée qu'un référendum au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est juste membre de l'Union européenne. Donc s'ils sortent, ils sortent du marché unique. La France, elle est membre de l'euro et je vois pas comment on
de Schengen aussi,
de Schengen,
de l'union bancaire.
Non mais Schengen, ouais. On peut aussi en sortir, mais sortir de l'euro en disant voilà aujourd'hui on sort, le lendemain je suis pas sûr que vous ouvrez vos bourses, hein. Vous devez à mon avis fermer tous les marchés financiers parce que qu'est-ce que fera l'épargnant moyen ou autre, il verra pour mettre son argent ailleurs.
La panique dans les bourses. Charles de Marcy, bonjour, de la fondation Robert Schuman. Un référendum en France serait-il irresponsable?
En partie en tout cas, c'est pas demandé par une majorité aujourd'hui de la population. Et puis si vous demandez aux Brexiteurs, ils voulaient gagner une bataille, mais pas forcément la guerre. Et le référendum, bah, c'est oui ou non, c'est blanc ou noir, assez manichéen, et donc ça porte beaucoup plus de conséquences qu'une simple élection.
Bonjour Dominique Riquet, eurodéputé UDI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette question du référendum? C'est intéressant de vous avoir sur le plateau aujourd'hui, parce que vous étiez favorable, dès le début, au Brexit. Est-ce que ça veut dire que vous étiez favorable, sur le principe qu'il y a un référendum au Royaume-Uni?
Non, pas du tout, hein. La question a été posée au Royaume-Uni pour des raisons de politique intérieure toutes petites,
ouais.
Qui était que M. Cameron voulait arranger ses affaires au niveau du Parti conservateur. Les conséquences, il va les assumer, il va partir, il a tout perdu. Bon, je veux dire, c'était pas une question sur l'Europe, c'est une question sur l'Angleterre. Bon. En France, on peut faire des référendums. Expliquez-moi d'ailleurs pourquoi la question se pose où elle se poserait en France. Peut-être si c'est pour faire plaisir à Marine Le Pen, peut-être.
Un référendum en France serait-il irresponsable? Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME. Bon, il va falloir, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se poser la question ici aujourd'hui, il va falloir pour l'ensemble de la classe politique française prendre position. Parce que Marine Le Pen va faire campagne sur la promesse d'un référendum en France sur l'appartenance ou non à l'Union européenne. Or, il se trouve que selon un sondage publié par BFM TV, eh bien 55% des Français sont contre le principe d'un référendum sur l'Union européenne. Jean-Sébastien Lefebvre, vous pensez que Juppé, il a raison de dire que ce serait irresponsable ou vous pensez que c'est un déni de démocratie?
Je sais pas si le terme irresponsable... Un déni de démocratie, non, on n'est pas obligé d'organiser des référendums. Ça, c'est une rhétorique développée par le Front National en disant, si vous le faites pas, c'est un déni de démocratie. Non. Un pays choisit de le faire ou de pas le faire. On n'est pas obligé de faire un référendum sur toutes les questions. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut aussi que les Français comprennent, c'est que Marine Le Pen fait joujou avec les référendums, mais le faire en France aura des implications beaucoup plus graves. Dire, dans un référendum, nous sortons de l'Union européenne et nous sortons de la zone euro, sachant qu'en plus, le FN n'a même pas répondu à la question en interne, savoir est-ce qu'ils veulent ou pas garder l'euro. Donc on sortirait de l'Union européenne sans sortir de l'euro éventuellement. Grosso modo, on récupère le statut du Kosovo. Hein. Je ne sais pas si c'est hyper intéressant. Le Kosovo est un pays qui utilise l'euro, mais qui n'est pas dans la zone euro. Donc je suis pas sûr que, pareil, un petit peu, vous êtes dedans, mais sans prendre des décisions, sans participer aux délibérations. Donc voilà, le slogan de Marine Le Pen est peut-être très bien pour faire campagne, mais concrètement, va falloir peut-être un peu plus expliquer, et surtout dire aux Français c'est quoi les conséquences. Parce qu'encore une fois, moi, si la réponse est nous sortons de l'Union européenne et de la zone euro, le lendemain, vous avez un gros souci avec votre économie.
Maria Arena. Parce que finalement, Geert Wilders, le leader hollandais, c'est le Parti pour la Liberté. Hein.
PVV.
Le PVV, lui aussi, dès l'annonce des résultats britanniques, il a appelé à la tenue d'un référendum pour un exit. Ça vous inquiète, vous, tous ces...
Alors, ils ont exactement la même stratégie qu'ils ont eue en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, c'est une stratégie personnel d'une part et une stratégie de parti. Ils n'ont pas d'alternative à proposer et on le voit en Grande-Bretagne aujourd'hui, tous ceux qui ont fait campagne pour le Brexit, aujourd'hui se disent « Ah zut, ça a fonctionné, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Personne n'est prêt. D'ailleurs, ils disent « Attendez, n'accélérez pas le processus parce qu'il faut qu'on se prépare. »
Je vous la montre.
Et la préparation ne veut pas dire « On va sortir », la préparation c'est comment on va négocier qu'on reste quand même un pied dedans. Et donc je trouve que de la part de Marine Le Pen, ce serait beaucoup plus honnête de sa part de dire ce qu'elle veut réellement, ce qu'elle veut de la France, ce qu'elle veut en dehors de l'Europe. Est-ce que c'est possible de gérer les défis de la globalisation en étant simplement avec la France uniquement isolée de tout, ce n'est pas possible. Et donc elle doit expliquer et ne pas faire comme les Anglais ont fait, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de mensonges qui ont circulé et qui ont manipulé les gens. Moi je suis pour la consultation bien entendu, pour le fait de faire participer, mais pas avec des mensonges. Et c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est ce qui se passera en France, c'est ce qui se passera aussi en Hollande.
Donc c'est intéressant, Charles de Marcy, Maria Arena nous dit... Pourquoi pas une consultation ? Le problème, c'est que il y a des mensonges. On le voit bien dans le cas du Royaume-Uni, où Nigel Farage, patron du UKIP, dès le lendemain, dès l'annonce des résultats, disait « Alors non, c'est pas vrai que 350 millions de livres par semaine, je sais plus quel était le montant, alors que réellement c'était le tiers, enfin la contribution britannique au budget communautaire, c'est pas vrai que cet argent-là ira à la NHS, la National Health Service. » Est-ce que vous, sur le principe du référendum, vous pensez que c'est un gros mot ou que ça peut être une bonne chose ? Est-ce que vous pensez qu'un référendum peut faire l'objet d'une campagne saine ?
Non, parce que ça s'appuie aussi sur l'émotionnel. On peut avoir des référendums et consulter les peuples est tout à fait légitime. Après, vous avez la démocratie directe, le référendum, pourquoi pas, la consultation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Bruxelles passe ses journées à faire des consultations. Le citoyen ne répond pas forcément, mais c'est multiplié fois 10 000. Vous avez quand même le rôle des députés nationaux ou européens, dont c'est justement d'avoir ce critère de représentativité. Donc peut-être qu'on peut renforcer après le lien avec les élections sur les programmes des partis politiques. Là, la question sur les référendums, c'est vraiment un artifice. C'est-à-dire, voilà, on va faire un référendum et si toute la campagne présidentielle se base juste sur la question européenne liée à un hypothétique référendum, c'est catastrophique. Il vaut mieux parler de projet, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on...
Exactement.
Certains diront qu'est-ce qu'on ramène au niveau national, c'est légitime, mais avoir un débat ouvert. Et si c'est que référendum ou pas, évidemment ça va être cristallisé, et là c'est un artifice pour le Front National.
Mais est-ce que ça montre pas, Dominique Riquet, que finalement l'Europe se construit contre les peuples ? Si les gens et les politiques ont si peur d'un référendum, ça veut dire que... Ils ont peur du peuple.
Non, je pense qu'on n'a pas peur.
Je pose la question à Dominique Riquet, puis ensuite Maria Arena.
Désolé.
Non, mais référendum n'est pas égal à bracadabra, je veux dire. La manière dont on exerce la démocratie, elle se fait de manière représentative, participative. Il y a des moments où il faut poser la question au peuple. Moi, je soutiens que le référendum est une excellente chose. Maintenant, expliquez-moi.
Ah, donc pour vous, c'est une très bonne chose.
Mais expliquez-moi pourquoi il faudrait faire un référendum. Autrement que pour faire plaisir au Front National. Moi, ce que je veux dire simplement, tous les sondages d'opinion montrent que il n'y a pas, et de beaucoup s'en foutent, une majorité de Français qui veulent, ni qu'on fasse un référendum, et encore moins qu'on sorte de l'euro.
Effectivement, 83% des électeurs Front National, eux, veulent un référendum.
Mais là, ce n'est pas une émission sur le référendum, c'est une émission sur l'électeur du Front National.
Moi, ce que je veux dire, c'est que le référendum anglais, c'était une affaire interne au Parti conservateur. La campagne a été absolument dégoûtante, populiste. Il s'est terminé par un meurtre, il faut quand même le rappeler. Et la troisième chose, c'est que le résultat a surpris tout le monde, y compris les promoteurs et du référendum et du Leaves. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est que le plus parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne.
Ce qui était intéressant, c'est que j'avais lu une analyse qui disait c'est détestable le fait que effectivement une députée ait été assassinée lors de la campagne, mais ça ne pouvait arriver que de ce côté-là. On ne pouvait pas imaginer qu'un militant du Remain pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne puisse en venir à ce point. Sur la question du référendum, vous pensez pas donc, je tourne en rond là-dessus parce que j'aimerais bien avoir une réponse qui me convainque, que c'est un déni de démocratie, Maria Arena, que de dire au peuple ah non, on construit l'Europe et globalement vous n'êtes pas assez intelligent.
Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut arrêter, au contraire, de manipuler. On fait croire au peuple qu'avec un référendum qui dirait oui ou non, on le respecte mieux. Mais pas du tout. Est-ce que vous croyez que le peuple britannique qui vit dans des situations difficiles va être mieux respecté demain en étant en dehors de l'Europe par des personnes comme Farage qui ont complètement menti ? Non, il ne sera pas mieux respecté. Donc, respecter le peuple, c'est expliquer clairement ce qu'on veut, demander ce qu'on peut faire de mieux et le mettre en action. C'est ça, respecter le peuple. C'est pas juste lui demander oui, non, et puis de se foutre complètement de ce qui va advenir de ce peuple. Aujourd'hui, il y a des populations britanniques qui vont être encore plus en difficulté. Alors, je ne pense pas que ce soit Farage ou Cameron respecte effectivement ces peuples. Pas du tout.
Voilà. Le problème, c'est que j'ai le sentiment aussi que c'est comme à la cantine, les enfants. À la limite, si on doit leur concocter un repas sain, on leur donne des légumes et puis une viande ou bien du poisson. Et si on leur soumettait un référendum, ils demanderaient tous « Est-ce que vous voulez des frites tous les jours ?» Ils voteraient tous « Oui ». Et là, le problème, c'est que l'Europe, dans une période de crise économique, c'est l'Europe qui inflige l'austérité, c'est l'Europe qui incarne les règles avec le pacte de stabilité et l'ensemble de la gouvernance. Et donc forcément, on ne peut pas laisser ça dans les mains du grand nombre.
On va dire le génie, entre guillemets, de Marine Le Pen, c'est qu'en demandant un référendum et en insistant là-dessus, sinon ça sera un dead deal, démocratie, etc., etc., elle bloque le débat. C'est-à-dire que le débat, ce n'est pas de savoir quelle Union européenne on veut, mais êtes-vous pour ou êtes-vous contre ?
Êtes-vous un démocrate ou pas ?
Voilà. Et si vous n'êtes pas pour la sortie de l'Union européenne, vous êtes un affreux eurocrate, complice de Bruxelles, qui, limite, mange des enfants, etc., qui veut tout libéraliser, etc. La vraie question, c'est aussi, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette Union européenne ? On peut faire plein de choses, l'Union européenne est un projet politique.
Oui, mais ça, on ne va pas y répondre par oui ou non.
C'est pour une Europe de projets.
Et les partis politiques sont là pour ça.
Mais le projet qui peut être différent, mais sa stratégie, c'est de priver le débat entre un oui et
un... Elle n'est pas pour le projet, elle est pour le rejet.
Mais la question, c'est... La première question, c'est est-ce que le peuple demande un référendum ? Non.
Ce qui serait intéressant, en revanche, c'est de voir, bien justement, les partis politiques et le positionnement des uns et des autres. On voit qu'Alain Juppé, lui, dit que ce serait irresponsable. On voit, en revanche, que Laurent Wauquiez, des Républicains, lui, commence à parler d'une suppression de la Commission européenne. On poursuit notre discussion juste après un court message publicitaire. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles, toujours en compagnie de Maria Arena, eurodéputée socialiste belge, Dominique Riquet, eurodéputée UDI, qui nous arrive de Valenciennes, Jean-Sébastien Lefebvre de Context et Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Après le Brexit, on s'intéresse au potentiel Frexit avec Marine Le Pen qui a d'ores et déjà annoncé son intention d'organiser un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne si elle était élue en mai 2017. D'où cette question, un référendum en France serait-il irresponsable ? Irresponsable, c'est le terme employé par Alain Juppé. On voit que Bruno Le Maire, lui, ne serait pas hostile à un référendum après renégociation du traité. On voit Laurent Wauquiez, on voit les différents responsables politiques qui prennent position pour ne pas laisser un monopole à Marine Le Pen sur ces questions. Et ça, c'est ce qui fait l'objet de nos discussions aujourd'hui. On voit, par exemple, Arnaud Montebourg. Tiens, Arnaud Montebourg qui revient de je ne sais pas où. Extrémiste, autoritaire, taliban du droit, intégriste. Tout ça, c'était des mots avec des guillemets, des citations. C'est la façon dont Arnaud Montebourg décrit la Commission européenne. Et justement, Laurent Wauquiez qui demande carrément la suppression de la Commission européenne. Voilà les mois, la saison vers laquelle on se dirige. Jean-Sébastien Lefebvre.
ce que je veux dire, c'est moi, je trouve que ce que dit Laurent Wauquiez est proprement hallucinant. Il est dans un parti qui est susceptible de gagner les élections présidentielles de 2017 et il dit le plus tranquillement du monde, sans quasiment personne ne le reprenne en France, on va supprimer la Commission européenne. Comment on gère le marché unique ? Alors, est-il pour ou contre le marché unique ? Parce que si on n'a plus de Commission européenne, on n'a plus d'exécutif. Donc, est-ce que c'est les gouvernements eux-mêmes qui font les lois européennes, qui les votent eux-mêmes ? Donc, on a déjà une union qui n'est pas très démocratique sur certains aspects. Là, ça sera encore moins. Je veux dire, ça sort de nulle part. Il a été ministre des Affaires européennes. Ça n'a pas trop dû le marquer, vu ce qu'il est capable de dire.
Ici non plus.
Et ici, il a été député européen aussi.
Non, mais ça n'a pas non plus marqué.
Il est resté 6 mois avant de ministre de la Recherche.
À part faire la course à l'échalote avec le Front National, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de constructif dans ce que propose Laurent Wauquiez. Ça sort. Et si le LR gagne les élections présidentielles en 2017, ils vont vraiment le faire? Ils vont vraiment dire on va supprimer la Commission européenne? Moi, je veux bien, mais...
Ça aurait du panache.
Ça aurait du panache, mais ça va beaucoup.
Que les questions européennes feront partie des thèmes de campagne, parce que c'est important, et qu'on voit au contraire que c'est mis de côté. Si c'est mis dans la campagne seulement pour des pour ou contre, avec comme ça des choses qui sont lancées sur la table, ça va être catastrophique et désastreux.
Mais alors qui pour défendre le projet européen, Dominique Riquet? Est-ce que... je sais pas, François Bayrou, Jean-Louis Borloo, c'est plutôt au centre qu'on défend le projet européen.
Oui, au centre, on défend le projet européen, on défend plus d'intégration européenne. Moi, la seule remarque que je voudrais faire, c'est que, au-delà du chicaya sur cette idée farfelue de la Commission, bon, on a connu Laurent Wauquiez comme ministre tenir des propos très très pro-européens à l'époque, il a complètement changé, pourrait encore changer. Bon, alors, ce que je voulais dire, ce qui me frappe.
Sachant que c'est Jacques Barrot. Son mentor en politique qui lui avait laissé sa circonscription. Et ça doit être difficile aujourd'hui pour Jacques Barrot d'entendre des propos comme ça. Jacques Barrot, ancien commissaire européen.
Ce que je voudrais dire, c'est que depuis la fin de la période de l'or, on va le dire comme ça, et depuis 15 ans, l'Europe, elle est gouvernée par les États membres, et non pas du tout par l'eurocratie, non plus que par le Parlement, ni rien du tout. Et que ce qu'on constate, c'est que les États membres, c'est la chicaïa permanente, et ils empêchent effectivement que les choses tournent de manière opérationnelle. Il n'est qu'à voir les sorties des conseils européens, la manière dont ils ne peuvent jamais se mettre d'accord sur rien, le fait qu'il y ait une véritable paralysie, etc. Mais c'est dû à quoi? C'est pas dû à l'eurocratie, c'est dû aux chefs d'État et de gouvernement. C'est eux qui gouvernent l'Europe actuellement. L'eurostructure, c'est le Conseil. Le Conseil, c'est les chefs d'État.
Maria Arena.
Je suis tout à fait d'accord et je rajouterai par des États membres qui ne croient pas dans l'Europe. Parce qu'on pourrait avoir des États membres qui, ensemble, aient une vraie volonté politique d'aller vers le projet européen. Et aujourd'hui, on a plutôt des États membres qui sont plutôt, qui utilisent l'Europe pour ne pas assumer leurs responsabilités en disant tout ce que nous faisons très bien, nous le faisons en tant qu'États membres et tout ce qui ne se passe pas bien, c'est l'Europe. On l'a vu avec la crise migratoire. La crise migratoire, la Commission que l'on veut supprimer est venue avec une proposition qui était une proposition tout à fait acceptable, soutenue par le Parlement. Voter presque à l'unanimité, sans avoir les partis non démocratiques, mais ça a été soutenu. Et les États membres n'ont pas accepté cela. Et donc il y a, je pense, du côté des États membres aujourd'hui, un vrai problème vis-à-vis de l'Europe. Et donc c'est ça qu'on doit modifier, c'est-à-dire on devrait pouvoir avoir des chefs d'État qui croient dans le projet européen, qui définissent ce qu'ils sont prêts à mettre dans ce projet européen, et à partir de là, vraiment, en faire la construction.
François Hollande, par exemple, ne veut pas rouvrir un traité, une négociation avec un nouveau traité pour un nouveau projet européen, parce que ça pourrait induire l'organisation d'un référendum en France pour le valider. Oui, c'est là qu'on se trouve.
Oui, mais c'est aussi la difficulté de savoir que si on ouvre la négociation sur le traité, c'est de savoir si on a la majorité pour avoir un vrai bon traité, ou si, au contraire, on risque de vider ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire d'en faire moins encore que ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, il y a là aussi ce risque. Moi, je pense que la question qu'on doit se poser, et c'est ce que je dis au niveau des citoyens européens, est-ce que, dans la mondialisation, on a besoin d'un organe tel que l'Europe? C'est la question qu'on doit se poser. Quels sont les défis que nous avons aujourd'hui à régler? Et est-ce qu'au niveau national, on est capable de les régler? Si vous prenez la question climatique, vous ne pouvez pas régler la question climatique au niveau national. Si vous prenez la question de la fiscalité, la première question qu'il faut, le terrorisme, la sécurité, la première question que vous devez poser, c'est est-ce qu'il y a une nécessité politique? La réponse est oui. Cette nécessité politique, comment doit-on la traduire? Donc on est loin du référendum qui dit oui, non. La question est quelle est la nécessité politique de l'institution?
Comment est-ce qu'on met les peuples dans le coup?
En leur expliquant d'abord que police, justice, frontières, armée, sécurité, terrorisme, fisc et politique sociale, et politique sociale ne sont absolument pas des politiques dans la main de l'Europe. Elles sont intégralement dans la main des États membres.
Ah oui.
Et de ce fait, que les États membres se défaussent de leur incapacité à mener ces politiques-là en les mettant sur le compte d'une Europe passoire, d'une Europe ceci, cela, c'est un scandale. Et c'est comme ça que les peuples se séparent de l'Europe.
Exactement.
Et le problème, et ce qui est très grave, c'est que les solutions, comme vient de le dire Maria, c'est que les solutions sur le terrorisme, sur l'immigration, sur la défense, sur la convergence fiscale et sociale, elles ne passent que par l'Europe. C'est-à-dire, on fait croire au peuple, avec un S à peuple, on fait croire au peuple que la solution, elle est à sortir de l'Europe pour régler ses problèmes, alors que ces problèmes ne sont pas dans l'Europe. Ils sont dans les mains des États membres. Et ça, c'est honteux. Et moi, je peux vous dire, quand on explique ça aux gens, on reçoit des gens, beaucoup.
Bien sûr.
Ils sont tout à fait étonnés, puisque, que disent les europhobes? Les europhobes, ils disent, l'Europe passoire. L'Europe du dumping fiscal, l'Europe du dumping social, alors que l'Europe n'a aucun pouvoir sur le sujet. C'est l'incapacité des États membres de gérer ces problèmes, qui en plus, non seulement ne les gèrent pas, mais ont le toupet de dire que c'est de la faute à l'Europe.
Charles, merci.
Deux réflexions. La première, c'est que, oui, il y a un effort de communication
et
de pédagogie. Et on l'a vu pendant la campagne britannique, c'était une catastrophe, parce que en souhaitant... Et quand je dis « on », les institutions européennes ne pas effectuer ou ne pas faire d'ingérence, on laisse en fait les farfelus s'exprimer comme ils le souhaitent et derrière, ça rebondit jamais. Donc ça va que dans un sens et ça continue. Et si vous parlez du référendum il y a 3 ans à Cameroun, s'il devait réfléchir aujourd'hui et si on lui reposait la question, je ne suis pas convaincu qu'il penserait que c'était une idée brillante. Donc le premier élément, c'est qu'il faut pouvoir aussi communiquer et on le verra dans la campagne, c'est que s'il y a seulement des partis politiques ou des hommes politiques au sein des partis qui s'appuient que sur Bruxelles comme un punching ball et que ça rebondit jamais, il va y avoir un vrai problème parce que ça ira que dans un seul sens. Le second, c'est est-ce que pour autant on n'a pas de projet ? Et là, c'est aux partis politiques de pouvoir arriver à un projet et on le verra pendant l'élection présidentielle. Est-ce que ces partis font ce travail en dehors de tout populisme pour grappiller quelques voix ? Et là, Cameron, par exemple, chez les Britanniques, s'est planté exactement sur cette configuration-là. Il voulait grappiller quelques voix, ça lui a pété au visage. Si les Français font la même chose, évidemment que ça peut être très positif pour le projet européen.
Jean-Sébastien.
Clarification. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe est illisible parce qu'elle est trop complexe. Au bout d'un moment, il va falloir penser à simplifier. Même moi, qui en tant que journaliste passe mes journées à voir ce qui se passe là-dedans, on s'y perd. On ne comprend plus. Moi, je comprends que les Européens, le citoyen lambda, ils ne comprennent pas la différence entre le Conseil de l'UE, le Conseil européen et le Conseil de l'Europe. C'est normal qu'ils ne voient pas forcément la différence entre Parlement, Commission, machin, aussi parce qu'on ne lui explique pas. Donc, il faut falloir, à un moment donné, utiliser du vocabulaire plus simple, resserrer les liens, dire que il y a des compétences qui sont européennes, on peut en parler, on peut le faire, on peut avoir des débats sur le sujet, mais par exemple, que le Parlement européen arrête de faire des résolutions sur tout et n'importe quoi aussi.
Maria Arena.
Je pense que aujourd'hui, il y a quand même, c'est pas qu'un problème de communication. Aujourd'hui, en Europe, depuis plus de 20 ans, il y a aujourd'hui l'Europe des perdants quand même. Et c'est cette Europe des perdants qui est aujourd'hui dans la crainte de ce qu'on fait au niveau de l'Europe. On doit se soucier de cette redistribution. L'Europe est un des continents les plus riches, mais c'est le continent qui a créé le plus d'inégalités ces 20 dernières années. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit absolument travailler, c'est la question de la redistribution. Et cette question-là n'a pas été correctement abordée ces 20 dernières années. Vous avez parlé de l'or. Je pense que depuis cette commission, on n'a pas eu de commission qui a travaillé sur cette réelle redistribution des richesses.
On est d'accord en tout cas que là, il y a eu le Brexit et ça a créé quand même un certain chaos, surtout outre-Manche. Et puis les Européens sont assez désabusés. On est d'accord autour de la table qu'en cas de Frexit, si la France venait à sortir de l'Union européenne, c'est la fin de l'Union européenne.
Je crois qu'il ne faut même pas évoquer ça.
Il ne
faut pas l'évoquer, ça me paraît politiquement malsain. Moi, voilà, ce que je veux dire, ce n'est pas l'Europe des perdants.
Le problème, c'est que si on ne se cache pas les yeux, les oreilles...
Nationales.
Oui, non, mais je veux dire les perdants sur le continent.
Oui, voilà. Sur le continent, mais
sur
quand
le
on
continent.
Parle de l'Europe, il faut bien faire la différence entre l'Union européenne, les institutions...
Tout à fait. Je parle des gens.
Voilà, oui, mais bien
des
sûr.
Gens qui ont
certaines politiques européennes ont provoqué des perdants, ont eu pour résultat des perdants aussi au niveau national.
Oui, puis le Royaume-Uni n'a pas voté contre l'ultralibéralisme, ça paraît bizarre aussi.
La progression de la prospérité...
Ce que je vous propose, c'est de continuer à en discuter juste entre vous. Quant à nous, on va regarder le journal, et puis juste après cette pause, eh bien, on retrouve Maya de la Baume et on va se poser cette question, comment les États-Unis se rapprochent de l'Allemagne après ce Brexit. Merci beaucoup Maria Arena d'avoir été avec nous. Jean-Sébastien, Charles et Dominique Riquet, vous êtes eurodéputé, je ne vous appelle pas juste par votre prénom, Dominique Riquet, eurodéputé UDI, on se retrouve juste après la pause.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.
voir ou revoir, écouter ou réécouter tout BFM Business, connectez-vous sur bfmbusiness.com, rubrique replay.
La grande difficulté, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à refaire basculer ce fameux moral des Français pour que subitement ils ressentent que l'instant est propice à consommer.
Téléchargez l'application BFM Business et retrouvez le meilleur de BFM Business sur votre mobile.
La seule Europe qu'on peut avoir, c'est celle qu'on peut faire avec les citoyens européens. Il n'y a pas d'autre issue.
BFM Business, pour vous.
Il faut laisser maintenant du temps à la France et puis on pourra avoir de bonnes surprises.
Pour ne rien manquer de BFM Business, retrouvez tous les replays sur bfmbusiness.com ou l'appli mobile BFM Business. BFM Business, toute l'écho pour vous.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
BFM Weekend, 10h30. Les infos, Vincent Touraine.
Dans l'actualité de ce samedi, les départs en vacances, beaucoup de monde sur les routes de l'Hexagone. Cette journée est classée rouge dans le sens des départs sur tout le territoire. Des bouchons sont déjà signalés sur l'A7 au niveau de Valence et sur l'A10 à hauteur de Tours. Le pic de circulation est attendu vers 13h comme tous les ans. Ce sera beaucoup mieux demain avec du vert partout sauf en Île-de-France classé orange. Des départs dans la chaleur aujourd'hui puisqu'il fera plus de 30 degrés sur les trois quarts du pays avec des pointes à 37 degrés du côté de Nîmes. J-1 avant France-Portugal, demain soir en finale de l'Euro de foot, un match qui s'annonce historique. Journée plutôt tranquille pour les Français qui sont rentrés hier soir à Clairefontaine et qui n'auront que très peu de temps de récupération après leur victoire sur l'Allemagne. Au programme du jour, la conférence de presse d'avant-match de Didier Deschamps et Hugo Loris tout à l'heure à 11h30, puis séance d'entraînement, mais ça ne sera pas avant 17h. Le cyclisme avec le Tour de France est la 8e étape aujourd'hui entre Pau et Bagnères-de-Luchon, un parcours de 184 km avec 4 cols à plus de 1500 mètres d'altitude, dont le fameux Tourmalet. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet. Au général, le Britannique Yates est deuxième à près de 6 minutes, suivi du Français Alaphilippe. Troisième à 1 seconde. Et puis le sport, c'est aussi le tennis avec Wimbledon. La finale dames se joue à partir de 15h. Elle opposera l'américaine Serena Williams, numéro 1 mondial, à l'allemande Angélique Kerber, classée 4e. Il y a aussi celle du double homme, une finale 100% française avec la paire Herbert Mahut face au duo Beneteau-Roger Vasselin. L'Amérique toujours sous le choc, 24 heures après la tuerie de Dallas. L'homme qui a tué 5 policiers et en a blessé 7 hier avant d'être lui-même abattu était un vétéran afro-américain de la guerre en Afghanistan. Le tireur Micah Johnson, 25 ans, avait avoué vouloir tuer des policiers blancs. Il avait ouvert le feu lors d'un rassemblement de protestation contre les violences policières envers les Noirs. Barack Obama, qui participait à un sommet de l'OTAN en Pologne, va écourter son séjour pour se rendre à Dallas. Des rassemblements pacifiques ont eu lieu ces dernières heures dans plusieurs grandes villes américaines, notamment à Phoenix, San Francisco et Atlanta. L'OTAN conclut aujourd'hui son sommet de 2 jours à Varsovie. Cette réunion de l'organisation acte le renforcement de sa présence en Europe de l'Est. Les différents chefs d'État présents, parmi lesquels François Hollande, Angela Merkel et David Cameron, doivent discuter aujourd'hui de l'aide à l'Afghanistan ou encore de la coopération avec l'Ukraine. En Syrie, au moins 60 civils ont été tués ces dernières heures dans des bombardements à Alep et dans la province d'Idlib. Cette nouvelle escalade de violence est intervenu avant même l'expiration de la trêve qui avait été décrétée par le régime de Damas à l'occasion de la fête de l'Aïd. L'actualité internationale, c'est aussi ce tir de missile balistique par la Corée du Nord. Un missile lancé depuis un sous-marin, indique la Corée du Sud. Ce test nord-coréen intervient au lendemain de l'annonce par Washington et Séoul du déploiement sur le sol sud-coréen d'un système de défense antimissile parmi les plus perfectionnés au monde. Et puis la victoire symbolique de l'Uruguay dans son long combat judiciaire contre Philip Morris. Depuis 2010, le fabricant de cigarettes poursuivait le petit pays d'Amérique latine, lui réclamant 25 millions de dollars de compensation pour les pertes occasionnées par la mise en place d'une réglementation anti-tabac. Philip Morris est débouté. Montevideo parle d'immense victoire et estime que cette décision servira de précédent pour les autres pays engagés dans la lutte contre les effets du tabac. BFM Business, 10h33. Sans plus tarder, vous retrouvez la suite de 500 millions d'Européens. Yann-Anthony Noguès.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann-Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours ici à Bruxelles, après avoir débattu de ce référendum. On va continuer d'ailleurs sur le Brexit, toujours en compagnie de Dominique Riquet, eurodéputé UDI, de Charles de Marcilly, de la Fondation Robert Schuman, de Jean-Sébastien Lefebvre, de Context. Bonjour Maya de la Baume de Politico.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Des Américains et de leur rapport avec les Anglais après le Brexit.
Et les Allemands ?
Ils s'aiment déjà, les Américains n'aiment plus les Anglais, mais du coup maintenant l'amour se déporte vers l'Allemagne.
Ça c'est intéressant. Ça, ils n'aiment plus les Anglais, ça y est. Les Anglais ne sont plus le poodle des Américains. Bon, c'est ce que vous allez nous expliquer. Et puis ensuite, avec Eric Scholl, dans sa revue de presse, on ira en Allemagne, on ira en Italie, en Espagne et puis en Islande. On n'arrête pas de parler de l'Islande, décidément. Voilà, demandez le programme de 500 millions d'Européens pour cette deuxième demi-heure pour réagir à hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrer dans les coulisses de l'Europe.
Oui, nous allons pénétrer dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume. Maya, racontez-nous. Donc, on parle beaucoup de ce divorce entre les Grands-Bretons et les Européens, mais maintenant, c'est même avec les Américains que les Grands-Bretons divorcent.
Non, alors c'est surtout les Américains qui, après le Brexit, vont renforcer l'amour qu'ils portent aux Allemands. Puisque maintenant, les Américains avaient déjà une relation assez spéciale avec les Allemands. Mais là, les analystes, nous on a interrogé des analystes politiques aux États-Unis qui disent « c'est très bien parce que Washington et Berlin vont enfin avoir un rapport encore plus fort. Ils avaient déjà une relation spéciale. » Alors là, juste après le référendum, Obama, la première personne qu'il a appelée après Cameron, c'était Merkel.
D'accord.
Et donc, ils ont... les analystes, et nous on en a interrogé pas mal à Politico, ils disent que les Britanniques... maintenant vont être un peu mis à l'écart et que les Américains vont surtout parler aux Allemands.
Qu'est-ce qu'il a ? Déjà, première question, Politico, donc vous êtes la branche européenne de Politico qui avait fait un carton à Washington. On en a beaucoup, beaucoup parlé dans Politico à Washington de ce Brexit, j'imagine.
Oui, beaucoup.
Ouais.
On a beaucoup parlé, justement, on a interrogé beaucoup d'Américains pour savoir ce que ça allait faire, allait créer comme impact aussi pour eux.
D'accord.
Notamment le TTIP, tout ça, puisque ça implique
l'accord de libre-échange, ouais, en négociation entre les États-Unis et l'Europe. Qu'est-ce qui concrètement, Maya, rapproche les Américains et les Allemands? Quels sont les dossiers?
Sur beaucoup, beaucoup de questions, et il y a notamment les sanctions russes, par exemple, dont on parle beaucoup, parce que les Allemands ont beaucoup élaboré tout le régime de sanctions actuel, et les Américains se basent beaucoup, justement, sur les Allemands là-dessus. Après, il y a des aspects il y en a beaucoup, il y a la sécurité, par exemple, il y a encore 179 bases américaines qui sont en Allemagne. Il y a 40 000 troupes US en Allemagne aussi. Donc, il y a un rapport, en fait, très fort.
40 000 hommes, hein, 40 000 soldats.
40 000 soldats,
parce que
soldats,
c'est vrai
qu'en
anglo-saxon, on dit troupes. Mais, Jean-Sébastien Lefebvre.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment du débat sur le référendum, et bien en amont, Obama avait déjà dit que si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, la relation très spéciale qu'ils avaient avec Londres allait s'amenuiser. Donc là, il y a juste un renversement. Et on a vu il y a quelques mois, quand Obama est venu en Europe pour parler TTIP, il n'a pas été voir Cameron pour parler TTIP, surtout. Il a été voir Merkel. Et on sent que les Américains se disent, si on veut continuer à pouvoir influencer et avoir un contact privilégié avec l'UE, il faudra passer par Berlin. C'est pas à Paris que ça se passe.
Charles?
Ouais, c'est une question de porte d'entrée. La porte d'entrée a pu être le Royaume-Uni. On espérait qu'elle soit à Bruxelles et elle est souvent à Berlin. Donc il y a aussi un équilibre peut-être à retrouver, une redéfinition. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les autres puissances du monde. Vous avez cité la Russie tout à l'heure. On peut parler de la Chine à la fin de l'année. Les États-Unis dans le cadre du TTIP, de l'accord de libre-échange. Tout ça va demander en fait d'avoir un numéro de téléphone. Et on est toujours sur cette question pour appeler l'Union européenne. Qui j'appelle en premier?
C'est ça, et la porte de Brandebourg. Donc porte d'entrée des États-Unis en Europe. Et la fameuse question de Henry Kissinger, je veux bien appeler l'Europe, mais quel est le numéro? C'est toujours pas Donald Tusk, le président du Conseil européen, le polonais, qui s'est un petit peu amélioré en anglais, mais essentiellement il parle polonais. Dominique Riquet, vous voyez ça d'un bon œil, vous, ce rapprochement entre Washington et Berlin?
Washington revient sur le continent, c'est déjà pas mal.
C'est déjà une bonne nouvelle, d'accord.
Je crois que ce retour montre aussi quelle importance ils attachent au TTIP. Et le fait que pour eux, c'est probablement un problème essentiel. Et clairement, on savait qu'ils n'avaient pas trop de problèmes quand même avec les Anglais à ce niveau-là, alors que s'il y a des problèmes, probablement ils seront sur le continent, et notamment l'Allemagne sera décisive.
Voilà. Maya.
Mais d'autant plus que Merkel était un peu l'instigatrice au début de TTIP. Enfin, c'était elle qui le portait. Maintenant, l'Allemagne est moins favorable,
moins allante.
Enthousiaste,
moins
mais allante. C'était... Je pense aussi qu'ils ont une méthode de travail qui correspond. Les Américains et les Allemands, je pense, s'entendent assez bien en règle générale. C'est ce que j'entends dans les rapports de travail, la personnalité aussi, parce que ça compte beaucoup.
Très bien. Et les Français s'entendent avec qui ?
Avec personne, malheureusement. D'accord. C'est ça le problème.
Dominique Riquet, et puis on va enchaîner.
Il y a une question qui m'intéresse, c'est les grandes oreilles. Vous savez, l'alliance.
Échelon.
Échelon, voilà. Ah.
C'est une coopération, parce que l'échelon, c'est le Royaume-Uni, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc ça tournera toujours. C'est pas parce qu'ils sortent de l'UE que les Américains et les Anglais vont arrêter d'espionner leurs voisins.
Oui, non, mais clairement, mais nous, on pouvait quand même faire des remarques aux Anglais dans un contexte qui était un peu différent. Enfin, bon.
Sinon, on leur envoie les Espagnols pour couper les oreilles tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
La revue de presse, il nous retrouve depuis le cœur de la rédaction de Courrier International. C'est le patron de la rédaction. Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Alors Éric, vous nous emmenez en Allemagne pour parler d'intégration.
Oui, on a beaucoup parlé de réfugiés au cours de ces derniers mois. Et on sait que l'Allemagne d'Angela Merkel a fait un effort très important. Plus d'un million de réfugiés au total. Alors le journal de Berlin, Die Tageszeitung, a eu la bonne idée d'aller voir comment se déroule l'intégration des nouveaux venus. Il est allé à Grima, une petite ville de Saxe, et ce que le journaliste a constaté, c'est le rôle essentiel des bénévoles. Dans cette commune, on compte 650 réfugiés, et voilà ce qu'écrit le journal, comment les gens qui viennent d'arriver en Allemagne peuvent-ils s'y retrouver dans ce mini-mélo ? Beaucoup d'entre eux seraient perdus s'il n'y avait pas les bénévoles. Et effectivement, dans cette commune de 30 000 habitants, on compte 20 bénévoles qui traduisent les courriers, intègrent les réfugiés dans la vie sociale, les aident dans les tâches administratives. Bref, c'est l'intégration au quotidien.
Jean-Sébastien Lefebvre.
C'est ce que disait Merkel quand elle est venue au Parlement européen en début d'année, en septembre. C'est le grand défi qui nous attend, c'est maintenant d'être capable d'absorber ce million de personnes, parce que Merkel dit qu'une partie va repartir, mais ça sera une petite partie. Et puis surtout, la guerre est toujours pas finie en Syrie, elle continue. Donc ils rentreront peut-être dans 2, 3, 5, 10 ans. Et effectivement, l'État pourra pas tout faire. Et donc c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'il y a aussi les Allemands qui se mobilisent derrière. Et Merkel disait « oui, nous pouvons », en paraphrasant un peu le « yes, we can » de Barack Obama.
Charles. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, c'était assez manifeste, où il y avait vraiment cette ville quand même politique. Et en 2016, on a eu plutôt l'effet inverse. Protection des frontières et tous les grands dossiers étaient sur les quotas de répartition, sur comment on était plus dur, plus strict avec ces mouvements et ces flux migratoires. Et donc c'est intéressant de voir que finalement la presse allemande revient aussi sur cette première ambition et cette volonté d'accueil très spontanée, très généreuse, chaleureuse presque, de la part des Allemands, parce que c'était clairement pas le signal qui était donné en 2016.
Elle s'est fait remuer, hein, Dominique Riquet, Angela Merkel, pour ses bras ouverts aux réfugiés syriens. En attendant, AfD, Alternative für Deutschland, le parti, on va dire, extrémiste, eurosceptique en Allemagne, bon, il est quand même pas aussi important que le Front National en France. Alors qu'en France, il n'y a pas eu tant de réfugiés que ça.
Enfin, on est dans une position inverse. Nous, personne n'est venu et tout le monde a dit...
Personne ne voulait venir.
Mais aussi, personne n'en voulait. Et tout le monde disait, voilà, bon, il y a eu quand même un mouvement qui n'était pas très accueillant. Bon, ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire, c'est que ça puisse être aussi différent, au-delà des problèmes démographiques, hein, d'ailleurs, mais que d'abord, il y ait un afflux qui est quand même extraordinaire, et deuxièmement, malgré tout, une position générale de la population, pour certains dans l'accueil, très fortement, et en même temps, comme vous le dites, bon, il n'y a pas quand même une réaction de populisme exacerbée au niveau de la population.
Finalement, on devrait se poser des questions, même par rapport à ça. C'est un peu vexant que les réfugiés, ils veulent pas venir en France. Ils disent, ça vaut pas le coup. Les Français sont pas accueillants. Et puis en plus, il n'y a pas de boulot. L'économie est moribonde.
Mais ça reflète aussi l'image que la France a à l'étranger aujourd'hui. On passe de l'image de la France accueillante, patrie des droits de l'homme, etc., qui a toujours accueilli des réfugiés, à une image où c'est pas le pays le plus accueillant, puis en plus il y a pas de travail. Donc on va là où voilà, l'image de l'Allemagne ces 5-10 dernières années a fortement évolué. Le passé a été aussi liquidé, c'est fini l'image de l'Allemagne.
Maya. Ouais, quand vous allez à Calais, vous interrogez en règle générale les migrants et ils vous disent la chose qui répète à chaque fois, c'est on ne veut absolument pas faire toutes les démarches administratives en France, puisqu'on connaît, on sait à quel point il y a de la paperasse administrative, que tout est compliqué ici, on ne veut pas être ici. Enfin, ils veulent aller en Angleterre et ils ont une espèce d'image, de vision tellement négative de la France que voilà, on comprend pourquoi. Enfin,
En Italie, Eric, c'est cette fois-ci un petit village de Calabre qui fait parler de lui.
Oui, c'est le petit village de Riace, dans le sud de la Calabre, et d'ailleurs dont le maire Mimmo Lucano a même eu les honneurs de la revue américaine Fortune, le journal italien Internazionale, est allé enquêter sur ce village qui développe maintenant depuis 20 ans exactement un vrai laboratoire d'intégration pour les migrants, et voilà ce qu'il écrit. C'est une expérience à suivre qui montre que prendre en charge les migrants peut être bénéfique pour la région d'accueil et ne déclenche ni foire d'empoigne, ni hystérie xénophobe. Une belle histoire donc, on est très loin de l'Europe des barbelés, comme l'écrit le journal italien.
Bon, sans transition, l'Espagne. L'Espagne qui, elle, s'apprête, Eric, à commémorer les 80 ans de la guerre civile.
Alors oui, c'est d'ailleurs un journal britannique qui en parle, le Guardian, à travers une grande enquête sur la mémoire de ce conflit qui a commencé très exactement le 17 juillet 1936. Un effort de mémoire souvent difficile, constate le journal, qui raconte qu'il n'existe jusqu'à présent aucun musée capable d'offrir une vision complète de l'histoire, présentant tous les côtés de cette guerre civile. L'héritage de ce passé reste souvent controversé et complexe, raconte le Guardian, même si, souligne-t-il, au cours de la dernière décennie, on a vu en Espagne un effort d'investigation historique qui se traduit par la publication de nombreux livres et la diffusion de documentaires sur le sujet.
Voilà, les 80 ans de la guerre civile, ce sera donc le 17 juillet, Jean-Sébastien.
Mais on voit aussi aujourd'hui en Espagne que le débat va sur le passé commence à remonter aussi à travers le débat politique. Ça veut dire, après la guerre civile, il y a eu une sorte de pacte qui a été conclu entre les grandes formations politiques pour dire, bon voilà, on fait un consensus, on fait une transition, on n'en parle plus. Et ça, ça a été tenu pendant très longtemps par le PP et le PSOE qui ont dirigé le pays une fois l'un, une fois l'autre. Aujourd'hui, avec la mutation de la vie politique, on a Podemos et Ciudadanos qui arrivent. Cet équilibre.
Podemos qui veut dire aussi nous pouvons.
Qui veut dire aussi.
Parliez des Allemands, voilà, oui, nous pouvons, et bien pareil.
Et donc on voit aussi aujourd'hui en Espagne, c'est que ça redevient un sujet parce que l'équilibre post-dictature est en train de changer. Et effectivement, il y a encore plein de sujets. Si vous baladez en Espagne, dans certaines petites villes, vous avez certains noms de rues qui sont encore des noms de personnages de la dictature, de colonels, etc. Et certains vont dire, c'est pas normal, on devrait les enlever, c'est comme si nous, on avait encore des rues Pétain ou autre.
Ce que j'aime, c'est quand vous dites l'équilibre post-dictature. Moi, j'ai l'impression que dans pas mal de pays européens, on est dans un équilibre pré-dictature, là, pour l'instant. Charles de Marseille.
Transition, merci.
Charles de Marseille. De la Fondation Schuman.
Il faut que j'enchaîne avec ça. Surtout deux élections en Espagne, et on voit qu'on n'arrivait pas à avoir cette fameuse majorité qu'on a eue auparavant pendant 30-40 ans. Et donc cet équilibre est un peu cassé avec l'apparition de ces nouveaux partis que vous citiez. Et puis aussi une perte de confiance dans ces partis traditionnels qui avaient aussi pendant très longtemps appuyé sur le fait d'une sorte de plus jamais ça. Et donc c'est une nouvelle configuration politique à laquelle les Espagnols, tant avec les élections de juin que celles de décembre dernier, montrent qu'aujourd'hui ils sont un peu perdus.
Les 80 ans de la guerre civile, Dominique Riquet.
Une histoire extraordinaire, cette guerre civile. Seule guerre civile en Europe du XXe siècle, du fascisme et du communisme, même d'ailleurs des anarchistes. Donc, résumant l'histoire de la première moitié du siècle, et après, ils ont été sidérés, en fait. Moi, je crois qu'il y a eu une espèce de sidération politique qui est en train, d'ailleurs, de se défaire. Je crois que quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a certaines rues qui portent encore le nom de héros, entre guillemets, de telle ou telle partie du régime, il y a encore beaucoup de partisans du régime. Moi, j'ai quand même été frappé. Il y a encore des manifestations qui sont extrêmement marquées politiquement en Espagne. Et je crois que derrière le fait qu'il y avait une partition entre deux partis modérés, finalement, modérés, on voit réapparaître des partis qui sont moins modérés, il y a une réviviscence du sang espagnol un peu. Ça va être compliqué.
Maya ?
Non, moi je disais qu'on a tendance à sous-estimer en Europe le fait que les dictatures, notamment surtout en Europe de l'Est, peut-être moins en Espagne, sont récentes et que du coup on est encore dans ces moments de transition et ça explique beaucoup, je trouve, l'évolution politique des pays comme la Pologne. Ça fait pas longtemps tout ça. Donc il faut aussi toujours intégrer ça quand on écoute ce qu'ils disent et quand on regarde et quand on parle du parti PiS et tout ça. Je pense que l'histoire est encore si récente, la souffrance est encore si récente, quoi. Voilà.
On va terminer cette revue de presse, Eric, sur un drôle de maire. Ça se passe en Islande.
Alors il s'agit de Jungnar, le vrai faux maire de Reykjavik. Et pourquoi je vous dis vrai faux maire ? Parce que, nous raconte le journal allemand Süddeutsche Zeitung, le comédien Jungnar a été le maire de Reykjavik entre 2010 et 2014. je cite le journal, le punk anarchiste a dirigé la ville et il a laissé un excellent souvenir à ses administrés. Eh bien, voilà que Yogna remet ça, mais cette fois-ci pour de faux, puisqu'il tourne une série qui s'intitule Borgarstorin, pardon pour l'accent, ça veut dire maire en islandais, et il joue le rôle d'un politicien local véreux, alcoolique, dont la seule ambition est d'obtenir un véhicule de fonction plus spacieux. Un rôle donc de composition hein, pour Jognar, au passage, et je ne résiste pas au plaisir de vous donner le titre de l'article de la Süddeutsche Zeitung, House of Gnar.
Voilà. Merci Eric. Et donc le véhicule de fonction plus spacieux, ça me fait penser aux eurodéputés qui votent des budgets en pleine crise des migrants sur les 120 chauffeurs du Parlement européen. Maya, ça vous fait pas penser à ça? un petit peu. L'Islande, c'est un pays dont on entend beaucoup parler en ce moment, Dominique Riquet.
Et quand j'entends cette histoire, je comprends pourquoi ils font autant d'étoiles au foot. C'est comment ils peuvent battre les grands pays. Et cette espèce de folie, quoi.
Et justement, en parlant d'étoiles, ça nous fait penser aussi au mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui, c'était un peu au même moment qu'ils sont apparus sur la scène politique, Jon Gnar et Beppe Grillo, et puis maintenant, à la tête de la mairie de Rome, avec Virginia Raggi, on se trouve aussi avec un personnage haut en couleur.
Oui, non, mais c'est un mystère, le parti 5 étoiles, parce que j'ai jamais très bien compris où ils étaient. D'ailleurs, eux non plus, probablement.
À gauche, à droite, voilà. Ils ont des mesures.
Et ça fait trois ans qu'on ne sait toujours pas où ils sont, ce qui est quand même phénoménal.
Mais quelque part, ça veut dire au Parlement européen, on sait à peu près où ils sont, Jean-Sébastien Lefebvre.
Au Parlement européen, on sait où ils sont. Aujourd'hui, ils sont avec le groupe IFDD, qui est le groupe de Nigel Farage et des eurosceptiques britanniques. Mais au fond, quand vous discutez avec certains, ils auraient peut-être plus leur place, pour certains, chez les Verts, pour certains, peut-être à la GUE. C'est un mix.
Ils sont plus à gauche sur les
On sait où ils sont assis, mais on ne sait pas où ils pensent.
Voilà, ni où ils votent, je dirais.
ni où ils votent, c'est exact.
Donc, c'est un peu hybride, moi. C'est complètement hybride, en fait.
Bon, merci beaucoup, Eric Scholl, pour cette revue de presse. Merci, Maya de la Baume, pour votre éclairage dans le cadre de vos coulisses de Bruxelles. Non, coulisses de Bruxelles, c'est quatre mers, de vos coulisses de l'Europe, pardon.
Attention,
de vos coulisses de l'Europe, attention aux coulisses de Bruxelles. TM, Jean quatre mers. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte. Merci, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Et merci beaucoup, Dominique Riquet, eurodéputé UDI, membre de la commission, notamment vous, c'est le ferroviaire, hein, c'est la commission des transports, ça c'est votre dossier. Merci à Alexandre Rougier qui a préparé cette émission avec beaucoup de talent comme d'habitude. Merci à Christophe, l'ingénieur du son, qui a mis en son cette émission. Et puis merci aux équipes techniques du Parlement européen qui l'ont mis en image. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Même jour, même heure. D'ici là, bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles, toujours en compagnie de Maria Arena, eurodéputée socialiste belge, Dominique Riquet, eurodéputée UDI, qui nous arrive de Valenciennes, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte et Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Après le Brexit, on s'intéresse au potentiel Frexit avec Marine Le Pen qui a d'ores et déjà annoncé son intention d'organiser un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne si elle était élue en mai 2017. D'où cette question, un référendum en France serait-il irresponsable? Irresponsable, c'est le terme employé par Alain Juppé. On voit que Bruno Le Maire, lui, ne serait pas hostile à un référendum après renégociation du traité. On voit Laurent Wauquiez, on voit les différents responsables politiques qui prennent position pour ne pas laisser un monopole à Marine Le Pen sur ces questions. Et ça, c'est ce qui fait l'objet de nos discussions aujourd'hui. On voit, par exemple, Arnaud Montebourg. Tiens, Arnaud Montebourg qui revient de je ne sais pas où. Extrémiste, autoritaire, taliban du droit, intégriste. Tout ça, c'était des mots avec des guillemets, des citations. C'est la façon dont Arnaud Montebourg décrit la Commission européenne. Et justement, Laurent Wauquiez qui demande carrément la suppression de la Commission européenne. Voilà les mois, la saison vers laquelle on se dirige. Jean-Sébastien Lefebvre.
Moi, ce que je veux dire, c'est moi, je trouve que ce que dit Laurent Wauquiez est proprement hallucinant. Il est dans un parti qui est susceptible de gagner les élections présidentielles de 2017. Et il dit le plus tranquillement du monde, sans quasiment personne ne le reprenne en France, on va supprimer la Commission européenne. Comment on gère le marché unique? Alors, est-il pour ou contre le marché unique? Parce que si on n'a plus de Commission européenne, on n'a plus d'exécutif. Donc, est-ce que c'est les gouvernements eux-mêmes qui font les lois européennes, qui les votent eux-mêmes? Donc, on a déjà une union qui n'est pas très démocratique sur certains aspects. Là, ça sera encore moins. Je veux dire, ça sort de nulle part. Il a été ministre des Affaires européennes. Ça n'a pas trop dû le marquer, vu ce qu'il est capable de dire.
Ici non plus.
Et ici, il a été député européen aussi.
Non, mais ça n'a pas non plus marqué. Non,
il est resté 6 mois avant de ministre de la Recherche.
À part faire la course à l'échalote avec le Front National, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de constructif dans ce que propose Laurent Wauquiez. Ça sort. Et si le LR gagne les élections présidentielles en 2017, ils vont vraiment le faire? Ils vont vraiment dire on va supprimer la Commission européenne? Moi, je veux bien, mais...
Ça aurait du panache.
Mais ça va beaucoup.
Que les questions européennes feront partie des thèmes de campagne, parce que c'est important, et qu'on voit au contraire que c'est mis de côté. Si c'est mis dans la campagne seulement pour des pour ou contre, avec comme ça des choses qui sont lancées sur la table, ça va être catastrophique et désastreux.
Mais alors qui pour défendre le projet européen, Dominique Riquet? Est-ce que... je sais pas, François Bayrou, Jean-Louis Borloo, c'est plutôt au centre qu'on défend le projet européen.
Oui, au centre, on défend le projet européen, on défend plus d'intégration européenne. Moi, la seule remarque que je voudrais faire, c'est que, au-delà du chicaya sur cette idée farfelue de la Commission, bon, on a connu Laurent Wauquiez comme ministre tenir des propos très très pro-européens à l'époque, il a complètement changé, pourrait encore changer. Bon, ce que je voulais dire, ce qui me frappe.
Sachant que c'est Jacques Barrot. Son mentor en politique qui lui avait laissé sa circonscription. Et ça doit être difficile aujourd'hui pour Jacques Barrot d'entendre des propos comme ça. Jacques Barrot, ancien commissaire européen.
Ce que je voudrais dire, c'est que depuis la fin de la période de l'or, on va le dire comme ça, et depuis 15 ans, l'Europe, elle est gouvernée par les États membres, et non pas du tout par l'eurocratie, non plus que par le Parlement, ni rien du tout. Et que ce qu'on constate, c'est que les États membres, c'est la chicaïa permanente, et ils empêchent effectivement que les choses tournent de manière opérationnelle. Il n'est qu'à voir les sorties des conseils européens, la manière dont ils ne peuvent jamais se mettre d'accord sur rien, le fait qu'il y ait une véritable paralysie, etc. Mais c'est dû à quoi? C'est pas dû à l'eurocratie, c'est dû aux chefs d'État et de gouvernement. C'est eux qui gouvernent l'Europe actuellement. L'eurostructure, c'est le Conseil. Le Conseil, c'est les chefs d'État.
Maria Arena.
Je suis tout à fait d'accord et je rajouterai par des États membres qui ne croient pas dans l'Europe. Parce qu'on pourrait avoir des États membres qui, ensemble, aient une vraie volonté politique d'aller vers le projet européen. Et aujourd'hui, on a plutôt des États membres qui sont plutôt, qui utilisent l'Europe pour ne pas assumer leurs responsabilités en disant tout ce que nous faisons très bien, nous le faisons en tant qu'État membre, et tout ce qui ne se passe pas bien, c'est l'Europe. On l'a vu avec la crise migratoire. La crise migratoire, la Commission que l'on veut supprimer est venue avec une proposition qui était une proposition tout à fait acceptable, soutenue par le Parlement, voté presque à l'unanimité, sans avoir les partis non démocratiques, mais ça a été soutenu. Et les États membres n'ont pas accepté cela. Et donc il y a, je pense, du côté des États membres aujourd'hui, un vrai problème vis-à-vis de l'Europe. Et donc c'est ça qu'on doit modifier, c'est-à-dire on devrait pouvoir avoir des chefs d'État qui croient dans le projet européen, qui définissent ce qu'ils sont prêts à mettre dans ce projet européen, et à partir de là, vraiment, en faire la construction.
François Hollande, par exemple, ne veut pas rouvrir un traité, une négociation avec un nouveau traité pour un nouveau projet européen, parce que ça pourrait induire l'organisation d'un référendum en France pour le valider. Oui, c'est là qu'on se trouve.
Oui, mais c'est aussi la difficulté de savoir que si on ouvre la négociation sur le traité, c'est de savoir si on a la majorité pour avoir un vrai bon traité, ou si, au contraire, on risque de vider ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire d'en faire moins encore que ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc il y a là aussi ce risque. Moi je pense que la question qu'on doit se poser, et c'est ce que je dis au niveau des citoyens européens, est-ce que dans la mondialisation, on a besoin d'un organe tel que l'Europe? C'est la question qu'on doit se poser. Quels sont les défis que nous avons aujourd'hui à régler? Et est-ce qu'au niveau national, on est capable de les régler? Si vous prenez la question climatique, vous ne pouvez pas régler la question climatique au niveau national. Si vous prenez la question de la fiscalité, la première
terrorisme.
Question, le terrorisme, la sécurité. La première question que vous devez poser, c'est est-ce qu'il y a une nécessité politique? La réponse est oui. Cette nécessité politique, comment doit-on la traduire? Donc on est loin du référendum qui dit oui, non. La question est quelle est la nécessité politique de l'institution?
Alors comment est-ce qu'on met les peuples dans le coup?
Ah, Alors expliquant d'abord que police, justice, frontières, armée, sécurité, terrorisme, fisc
mais pas
et
emploi,
politique sociale,
mais pas emploi.
Oui, et politique sociale ne sont absolument pas des politiques dans la main de l'Europe. Elles sont intégralement dans la main des États membres.
Ah oui.
Et de ce fait, que les États membres se défaussent de leur incapacité à mener ces politiques-là en les mettant sur le compte d'une Europe passoire, d'une Europe ceci, cela, c'est un scandale. Et c'est comme ça que les peuples se séparent de l'Europe.
Exactement.
Et le problème, et ce qui est très grave, c'est que les solutions, comme vient de le dire Maria, c'est que les solutions sur le terrorisme, sur l'immigration, sur la défense, sur la convergence fiscale et sociale, elles ne passent que par l'Europe. C'est-à-dire, on fait croire au peuple, avec un S à peuple, on fait croire au peuple que la solution, elle est à sortir de l'Europe pour régler ses problèmes, alors que ces problèmes ne sont pas dans l'Europe. Ils sont dans les mains des États membres. Et ça, c'est honteux. Et moi, je peux vous dire, quand on explique ça aux gens, on reçoit des gens, beaucoup.
Bien sûr.
Ils sont tout à fait étonnés, puisque que disent les europhobes? Les europhobes, ils disent l'Europe passoire, l'Europe du dumping fiscal, l'Europe du dumping social, alors que l'Europe n'a aucun pouvoir sur le sujet. C'est l'incapacité des États membres de gérer ces problèmes, qui en plus, non seulement ne les gère pas, mais ont le toupet de dire que c'est de la faute à l'Europe.
Charles, merci.
Deux réflexions. La première, c'est que, oui, il y a un effort de communication et de pédagogie. Et on l'a vu pendant la campagne britannique, c'était une catastrophe, parce qu'en souhaitant... Et quand je dis « on », les institutions européennes ne pas effectuer ou ne pas faire d'ingérence, on laisse en fait les farfelus s'exprimer comme ils le souhaitent et derrière ça rebondit jamais. Donc ça va que dans un sens et ça continue. Et si vous parlez du référendum il y a 3 ans à Cameroun, s'il devait réfléchir aujourd'hui, si on lui reposait la question, je ne suis pas convaincu qu'il penserait que c'était une idée brillante. Donc le premier élément, c'est qu'il faut pouvoir aussi communiquer et on le verra dans la campagne, c'est que s'il y a seulement des partis politiques ou des hommes politiques au sein des partis qui s'appuient que sur Bruxelles comme un punching ball et que ça rebondit jamais, il va y avoir un vrai problème parce que ça ira que dans un seul sens. Le second, c'est est-ce que pour autant on n'a pas de projet? Et là, c'est aux partis politiques de pouvoir arriver à un projet et on le verra pendant l'élection présidentielle. Est-ce que ces partis font ce travail en dehors de tout populiste pour grappiller quelques voix? Et là, Cameron, par exemple, chez les Britanniques, s'est planté exactement sur cette configuration-là. Il voulait grappiller quelques voix, ça lui a pété au visage. Si les Français font la même chose, évidemment que ça peut être très positif pour le projet européen.
Jean-Sébastien.
Clarification. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe est illisible parce qu'elle est trop complexe. Au bout d'un moment, il va falloir penser à simplifier. Même moi, qui en tant que journaliste passe mes journées à voir ce qui se passe là-dedans, on s'y perd. On ne comprend plus. Moi, je comprends que les Européens, le citoyen lambda, ils ne comprennent pas la différence entre le Conseil de l'UE, le Conseil européen et le Conseil de l'Europe. C'est normal qu'il ne voit pas forcément la différence entre Parlement, Commission, machin, aussi parce qu'on ne lui explique pas. Donc, il faut falloir à un moment donné utiliser du vocabulaire plus simple, resserrer les liens, dire que il y a des compétences qui sont européennes, on peut en parler, on peut le faire, on peut avoir des débats sur le sujet, mais par exemple que le Parlement européen arrête de faire des résolutions sur tout et n'importe quoi aussi.
Maria Rena,
Je pense que aujourd'hui, il y a quand même, c'est pas qu'un problème de communication. Aujourd'hui, en Europe, depuis plus de 20 ans, il y a aujourd'hui l'Europe des perdants quand même. Et c'est cette Europe des perdants qui est aujourd'hui dans la crainte de ce qu'on fait au niveau de l'Europe. On doit se soucier de cette redistribution. L'Europe est un des continents les plus riches, mais c'est le continent qui a créé le plus d'inégalités ces 20 dernières années. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit absolument travailler, c'est la question de la redistribution. Et cette question-là n'a pas été correctement abordée ces 20 dernières années. Vous aviez dit, vous avez parlé de l'or. Je pense que depuis cette commission, on n'a pas eu de commission qui a travaillé sur cette réelle redistribution des richesses.
On est d'accord en tout cas que là, il y a eu le Brexit et ça a créé quand même un certain chaos, surtout outre-Manche. Et puis les Européens sont assez désabusés. On est d'accord autour de la table qu'en cas de Frexit, si la France venait à sortir de l'Union européenne, c'est la fin de l'Union européenne.
Je crois qu'il ne faut même pas évoquer ça.
Il ne
faut pas l'évoquer, ça me paraît politiquement malsain. Ce que je veux dire, ce n'est pas l'Europe des perdants.
Le problème, c'est que si on ne se cache pas les yeux, les oreilles...
Nationales.
Oui, non, mais je veux dire les perdants dans sur le continent.
Oui, voilà. Sur le continent, mais
sur
quand on
continent.
Parle de l'Europe, il faut bien faire la différence entre l'Union européenne, les institutions...
Je parle des gens.
Voilà, oui, mais bien
des
sûr.
Gens qui ont
certaines
perdu.
Politiques européennes ont provoqué des perdants, ont eu pour résultat des perdants aussi au niveau national.
Oui, puis le Royaume-Uni n'a pas voté contre l'ultralibéralisme, il y a pas bizarre aussi.
Progression de la prospérité.
Ce que je vous propose, c'est de continuer à en discuter juste entre vous. Quant à nous, on va regarder le journal et puis juste après cette pause, on retrouvera sera Maya de la Baume. Et on va se poser cette question, comment les États-Unis se rapprochent de l'Allemagne après ce Brexit. Merci beaucoup, Maria Arena, d'avoir été avec nous. Jean-Sébastien Charles et Dominique Riquet, vous êtes eurodéputé, je ne vous appelle pas juste par votre prénom. Dominique Riquet, eurodéputé UDI. On se retrouve juste après la pause.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.